Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International et de l'actualité tchèque en français. Une actualité très largement dominée, comme vous allez l'entendre, par la propagation de l'épidémie de coronavirus et les différentes mesures prises pour y faire face. L'interdiction de la tenue de manifestations rassemblant plus de 100 personnes est entrée en vigueur en République tchèque ce mercredi et ce suite à la décision prise mardi par le Conseil de sécurité de l'État en raison de l'épidémie de coronavirus de durée intemporelle. Cette interdiction sera levée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Elle concerne l'ensemble des théâtres, cinémas et autres salles de spectacle. Par ailleurs, toutes les écoles du pays, à l'exception des écoles maternelles, sont fermées également depuis ce mercredi matin. Les autorités ont informé que le nombre de personnes infectées par le virus était désormais de 64, soit 26 de plus qu'il y a deux jours. Parmi les nouveaux patients attestés positifs se trouve un chauffeur de taxi pragois pour lequel les autorités sanitaires ne parviennent pas pour l'heure à déterminer l'origine de la contamination, laquelle ne serait pas liée à un séjour dans un pays comme l'Italie. Il s'agit ainsi de la première contamination dite communautaire qui est à l'origine des mesures extraordinaires du gouvernement. L'administration des douanes, elle, a mis à disposition du ministère de la Santé un peu plus de 30 000 litres d'alcool de contrebande, un alcool qui servira à la production de produits désinfectants. Le ministre Adam Wojtek a précisé que ces désinfectants serviront dans les gares ferroviaires et les gares routières ainsi que dans les endroits publics avec une forte concentration de personnes. Ces produits qui doivent permettre de faire face à la demande croissante en raison de l'épidémie seront fabriqués par un groupe désigné d'ici à la fin de la semaine. L'alcool est un désinfectant très efficace, a expliqué la ministre des Finances, Alena Schillerova. Cet alcool de contrebande sera transformé en laboratoire conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le président tchèque Miloš Zeman, qui devrait finalement bien participer au sommet 17+1 qui réunira les représentants de 17 pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et de la Chine à Pékin en avril prochain, a annoncé pour sa part qu'il prévoyait à son retour de passer sa mise en quarantaine au château de Lani, qui est la résidence traditionnelle du chef de l'État tchèque. En début d'année, Miloš Zeman avait annoncé qu'il ne participerait pas à ce sommet en raison des investissements chinois insuffisants, selon lui, en République tchèque. Le président tchèque, qui a donc changé d'avis, a indiqué qu'il se protégerait à Pékin contre le coronavirus comme ses homologues européens. Et puis, toutes les salles habituellement accessibles au public et toutes les expositions au château de Prague sont elles aussi fermées à compter de ce mercredi. En revanche, les cours et plus généralement l'enceinte en tant que telle du château reste ouverte pour les visiteurs. L'information a été communiquée ce mercredi par l'administration du château de Prague. Par ailleurs, la traditionnelle relève de la garde qui se tient chaque midi dans la première cour du château est elle aussi suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et puis enfin sport, les matchs des deux prochaines journées de la Fortuna Liga, le championnat de République tchèque de football, ainsi que ceux du championnat de deuxième division ne seront pas reportés mais seront disputés à huis clos en raison du coronavirus. L'annonce a été faite ce mercredi par la Ligue en charge des compétitions professionnelles. Une nouvelle décision sera prise après la trêve internationale et ce en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Cette annonce fait suite bien entendu à la décision prise par le gouvernement d'interdire les manifestations rassemblant plus de 100 personnes. Rappelons qu'en Fortuna Liga, 6 journées restent encore à disputer dans le cadre de la saison régulière ainsi que 5 autres ensuite dans le cadre des play-offs. On termine avec un mot de météo. Après un mercredi particulièrement pluvieux, une pluie qui a entraîné une montée importante du niveau de certaines rivières. Le temps reste très nuageux et humide sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Géorges et aussi du 21e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN. En hausse, les températures varient entre 11 degrés dans le nord-ouest de la Bohême et 18 degrés en Moravie du Sud. Quant au soleil, bien que ses rayons restent très discrets, il se lèvera à 6h19 et se couchera à 18h01. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qui a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Anna Kubishta, Anna qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Nous vous le disions, mardi, le gouvernement tchèque a mis en place toute une série de mesures extraordinaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays. Tour d'horizon des différentes restrictions et des conséquences en début d'émission avant d'évoquer la disparition des traditionnels jingles dans les gares de République tchèque. À l'occasion du 170e anniversaire de la naissance de Tomáš Masaryk, premier président de la Tchécoslovaquie indépendante qu'il a contribué à fonder, nous vous proposons une excursion plus littéraire autour de sa personnalité et de sa vie. Bonne écoute de ce programme. Sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, le service francophone de Radio Prague International met régulièrement à jour les informations concernant la propagation du coronavirus en Tchéquie. Alexis Rosenzweig, les autorités tchèques ont commencé à prendre des mesures drastiques pour tenter de limiter cette propagation. Dites-nous en plus.
Oui, alors la situation pourrait encore évoluer, bien sûr, dans les prochains jours. Pour l'instant, la police nationale tchèque, en collaboration avec l'armée, les pompiers et les douanes, organise des contrôles sanitaires aux frontières et ce depuis cette semaine à une dizaine de passages frontières, notamment avec l'Allemagne et l'Autriche. Un groupe de coordination de tous les ministères et des institutions concernées était réuni mercredi midi pour faire le point sur les mesures déjà en vigueur. Des contrôles sanitaires sont également en place dans les aéroports internationaux, donc à Prague notamment, ainsi que dans les trains qui viennent de l'étranger. La société de chemin de fer public a également précisé que les contrôles de billets seraient dorénavant effectués sans contact physique entre contrôleurs et passagers.
Et a priori, les plateformes spécialisées dans le tourisme sont également dans le collimateur des autorités.
Oui, alors c'est une nouvelle qui est tombée ce mercredi midi. Le maire du premier arrondissement de Prague a indiqué qu'il envisageait d'interdire les séjours touristiques via des plateformes de type Airbnb, et ce, en réaction à la contamination vraisemblable d'un chauffeur Uber par des utilisateurs allemands de cette plateforme, et puis également la confirmation mercredi matin de la maladie chez deux touristes français qui avaient séjourné via cette plateforme Airbnb dans le centre de Prague.
Et puis la mesure sûrement la plus drastique pour les parents, et on comprend, concerne la vie scolaire.
Oui, la vie scolaire très perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, car depuis ce mercredi matin, les écoles tchèques, toutes les écoles tchèques en ce qui concerne le primaire, le secondaire, les universités, les grandes écoles, sauf les écoles maternelles pour l'instant, eh bien toutes ces écoles n'accueillent plus les élèves. A priori, les professeurs, les maîtres et les maîtresses sont encore obligés d'aller au travail, mais il n'y a plus d'élèves dans les établissements scolaires, et ce, au moins jusqu'à la fin mars. L'interdiction de la tenue de manifestations rassemblant plus de 100 personnes est également entrée en vigueur en Tchéquie ce mercredi, suite à la décision prise mardi par le Conseil de sécurité de l'État pour une durée indéterminée. Pour l'instant, cette interdiction sera levée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et elle concerne l'ensemble des théâtres, cinémas et autres salles de spectacle.
La nouvelle a aussi entraîné l'annulation du Festival international de cinéma Fébiofest à Prague, qui devait se dérouler à partir de la semaine prochaine, du 19 au 27 mars, et qui prévoyait la venue, entre autres, de l'acteur américain Woody Harrelson. Le festival du film sur les droits de l'homme One World avait un premier temps prévu de ne limiter ses projections qu'aux petites salles de moins de 100 personnes avant finalement de choisir de le reporter dans son ensemble.
Oui, et Anna, petite précision pour ceux qui voudraient encore du divertissement en ces temps agités pour les salles de cinéma. Sachez que la chaîne de multiplex Cinestar a décidé de suspendre la projection de tout film dans les 13 succursales qu'elle a dans le pays. En revanche, le concurrent Cinema City continue de vendre des billets, mais 99 billets maximum par film, tout comme le font plusieurs cinémas de taille plus réduite, notamment le Kino Luzerna à Brno.
Voilà, et ça c'est pour la culture et le sport. Les manifestations sportives sont elles aussi évidemment concernées, j'imagine.
Les matchs de foot et de hockey se déroulent à huis clos et de grands événements prévus pour les mois prochains sont déjà annulés. C'est le cas de l'Open de golf Czech Masters, prévu pourtant pour la fin du mois d'août seulement. Les organisateurs des championnats d'Europe de judo, par ailleurs prévus début mai à Prague, n'ont encore rien annoncé. Mais ils doivent également se préparer à annuler cet événement qui était l'un des grands rendez-vous de l'année pour la star nationale Łukasz Krpalek avant les Jeux Olympiques de Tokyo, des JO dont l'organisation cet été est également réellement menacée.
Terminus pour les jingles si caractéristiques des gares tchèques. L'administration des infrastructures ferroviaires de l'État tchèque a récemment développé un nouveau système d'annonces audio uniforme qui fera disparaître des gares ces jingles uniques et très appréciés des amateurs de trains. Depuis 2 mois, ces annonces directement associées avec certaines destinations dans le pays ont disparu de Fridek Mistek, Pardubice, Hradec Králové et même Brno. Mais une pétition a été lancée pour arrêter le mouvement. Tiffen Pil nous en dit plus.
Stanice Hradec Králové, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5529.
Vous venez d'entendre le jingle propre à la gare centrale de Hradec Králové et l'annonce de l'artiste et doubleur Václav Knop qui ont probablement résonné pour la dernière fois en février. Le jingle, ainsi que plusieurs autres, ont en effet été retirés du service par l'administration des infrastructures ferroviaires au nom de la simplification, de l'uniformité, de la réduction des annonces des départs et arrivées et d'une priorisation progressive du système visuel. Le jingle de 4 secondes de la gare centrale de Hradec Králové vient d'une chanson traditionnelle, Okolo Hradce, qui commence comme ceci. Autour de Hradec, dans un petit jardin, poussent 3 roses. L'une est rouge, l'autre blanche et la troisième fleurit en bleu, les couleurs nationales du drapeau national tchèque. Okolo Hradce tiendrait son origine de l'époque de la bataille de Sadova en juillet 1886, un tournant dans la guerre austro-prussienne, dans laquelle 500 000 de soldats s'étaient affrontés près de la ville de Hradec Králové. Des amateurs de trains de toute la République tchèque s'insurgent contre l'élimination progressive de ces jingles régionaux si distincts. Plus de 4100 personnes ont déjà signé une pétition en ligne visant à arrêter le processus et à restaurer ces aires emblématiques. Les organisateurs de la pétition, Nadrajni Rasheni, dénombrent sur le site rasheni.net pas moins de 7 gares ayant perdu leur jingle particulier, dont Brno. Sur le site, on peut trouver les liens des enregistrements audio de pratiquement tous les jingles jamais utilisés dans une gare tchèque, ainsi que les noms de leurs annonceurs. Parmi les voix les plus iconiques, celle de Václav Knop, qui effectue des annonces ferroviaires depuis maintenant un quart de siècle. Dans une interview pour la radio tchèque datant de l'été dernier, le doubleur a souligné avec affection et une pointe d'étonnement à quel point les gens sont attachés et nostalgiques des anciennes annonces, sans parler des jingles.
Ma voix a été utilisée à la gare centrale de Prague pendant un certain temps. Puis est arrivée une autre compagnie avec des annonceurs différents. Quelques chotouzi, comme on les appelle, des observateurs de train et des fans de chemin de fer, ont lancé une page Facebook appelée Václav Knop de retour à la gare centrale. Ils ont essayé, mais bien sûr, ça n'a pas marché.
Václav Knop a prêté sa voix à l'effort du groupe d'observateurs des trains Nadrajni Rajeni. Selon le groupe, l'administration des infrastructures ferroviaires a, après plusieurs mois de silence, finalement répondu à leurs sollicitations et reconnu que les jingles seraient progressivement éliminés cette année pour être remplacés à partir de 2021 par un gong universel.
Et tout de suite, dans cette seconde partie d'émission, découverte de la vie du président Tomáš Garrigue Masaryk et de manière un peu originale, la bande dessinée, un sujet de Václav Richter.
Rencontre littéraire. Donner un visage humain à une personnalité historique, tel a été l'objectif des auteurs de TGM, bande dessinée qui retrace la vie du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk. Zdeněk Ležák, auteur du scénario, et Petr Holub, alias Holman, dessinateur, ont cherché et trouvé dans la vie du président les éléments et les épisodes montrant que ce philosophe et professeur d'université était également un homme d'action. Ce sont les entretiens avec Masaryk de Karel Čapek qui ont servi de source principale à Zdeněk Ležák pour adapter la vie du président en bande dessinée. Ce livre dans lequel Masaryk répond aux questions de l'écrivain Karel Čapek n'est pas cependant un simple entretien, une interview dans le sens journalistique du mot. C'est aussi un récit, une biographie, un essai philosophique et politique auquel Masaryk a participé non seulement comme personne interrogée, mais aussi comme co-auteur. Zdeněk Ležák a eu la tâche difficile de présenter aux jeunes lecteurs de BD la vie du président tchécoslovaque dans le contexte de son époque.
Ce livre est basé sur les entretiens avec Masaryk de Karel Čapek. Il y a donc beaucoup d'informations, mais pas assez pour le lecteur contemporain, afin qu'il puisse comprendre le contexte historique. J'hésitais sur les choses qu'il fallait encore expliquer au lecteur et ce qui était évident. Ce qui était évident pour moi ne l'était pas forcément pour le lecteur.
Les dessins de Petr Holub et les commentaires de Zdeněk Ležák apprennent aux lecteurs que le futur président est né en Moravie en 1850 dans des conditions extrêmement modestes. Son père, un cocher d'origine slovaque, est analphabète et n'apprend à écrire qu'avec son fils, sa mère et cuisinière. Le jeune Tomáš est d'abord apprenti serrurier puis forgeron, mais son intelligence et sa soif de connaissances l'amènent finalement au lycée allemand de Brno puis à l'université de Vienne. À partir de 15 ans, il gagne sa vie en donnant des leçons aux enfants de familles aisées et notamment au fils du préfet de police, Anton Le Monnier. C'est à Vienne que commence également sa carrière universitaire. Lors d'un séjour d'études à Leipzig, il fait la connaissance de Charlotte Garrigue, jeune américaine dont il tombe amoureux et qui deviendra sa femme. C'est avec elle qu'il s'installe finalement à Prague, où il devient professeur d'université. Ses écrits, ses conférences, ses activités journalistiques le propulsent bientôt au premier rang de la vie publique. En retraçant cet itinéraire, Zdeněk Ležák a mis l'accent sur les éléments susceptibles d'attirer les jeunes lecteurs.
Je veux que cette BD soit lue par les adolescents de 15 ans. D'autres livres sur le même sujet sont d'un niveau plus élevé, mais ils sont moins digestes pour tout un chacun. Je l'imagine comme une invitation à ce que le lecteur aille acheter un autre livre et commence à s'intéresser à ce sujet.
La BD est un genre d'action. Le lecteur de la BD désire être captivé, séduit et intrigué par la richesse des événements. Il veut être toujours étonné, toujours surpris. Zdeněk Ležák s'en rend bien compte.
Nous avons toujours essayé de pousser notre BD vers l'action. C'est une BD sur un homme politique, un journaliste et un professeur. Quand vous dites cela, vous vous endormez déjà avant de finir la phrase. Il fallait donc insister sur les épisodes comme le voyage en mer dramatique, sur le fait que Masaryk s'est jeté à l'eau, etc. Ce sont des éléments qui, en somme, ne sont pas essentiels dans la vie de Masaryk, mais nous avons été obligés de les accentuer.
Le lecteur de la BD voit donc renaître dans le dessin de Petr Holub la révolte du jeune Masaryk contre le directeur du lycée de Brno, l'histoire de son amour pour Charlotte Garrigue, son acte quasi héroïque lorsqu'il se jette à l'eau pour sauver une dame de Leipzig proche de se noyer, sa traversée de l'Atlantique sur un paquebot délabré qui ne résiste qu'avec beaucoup de peine aux vagues déchaînées de la mer orageuse. Les conflits qu'il provoque par ses attitudes intransigeantes pendant sa carrière universitaire à Prague représentent d'autres des éléments dramatiques de la vie de Masaryk. Il s'agit notamment de sa mise en cause de l'authenticité des manuscrits de Dvůr Králové et de Zelená hora, censés être les premiers textes littéraires de langue tchèque. Selon leurs défenseurs, ces parchemins datent du Moyen-Âge. Selon leurs critiques, dont Masaryk, il ne s'agit que de faux. Un autre grand conflit entre Masaryk et la société majoritaire éclate lorsqu'il prend la défense de Leopold Hilsner, un juif injustement accusé de meurtre rituel, une affaire comparée parfois à celle de Dreyfus. Des situations dangereuses et conflictuelles se multiplient aussi dans la vie de Masaryk après le début de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il voyage à travers le monde pour réaliser son plan de création de la Tchécoslovaquie, un état commun des Tchèques et Slovaques. Zdeněk Ležák insiste dans son scénario sur les aventures de Masaryk en Russie, où le futur président s'est rendu pour encourager et réorganiser les légions tchécoslovaques.
Les combats se poursuivent autour de lui, l'armée de Kerensky affronte les bolcheviks et Masaryk est emprisonné dans son hôtel. Cela se passe en 1917, juste après son arrivée en Russie. Et il réussit à créer sa légende, il devient ce qu'on appelle le petit père Masaryk, légende qui est en train de naître déjà depuis quelques temps. Pour les soldats tchèques, il apparaît comme un héros. Il survit à cette épreuve, il ne s'effondre pas, il marche sous les balles comme si de rien n'était. Masaryk fait tout cela pour raffermir le moral des soldats tchèques et slovaques et il réussit. Et cela faisant, il fait du bon marketing pour lui-même.
Principal artisan de la naissance de la Tchécoslovaquie, un état qui se constitue en 1918, Masaryk, qui jouit d'une immense popularité, est élu président de la Nouvelle République. Malgré son âge avancé, il sera réélu 3 fois et ne démissionnera qu'en 1935. Sous sa présidence, la Tchécoslovaquie devient un îlot de démocratie entouré de régimes plus ou moins autoritaires en Europe centrale. Cependant, pour les auteurs de la BD, cette période de la vie de Masaryk n'est pas assez riche en rebondissements. Quelques pages leur suffisent seulement pour résumer donc la dernière étape de la vie du président, étape qui est pourtant la plus importante. Il est évident que leur critère pour choisir les événements dans la vie du président n'a pas tellement été leur importance, mais plutôt leur caractère dramatique, et qu'ils ont recherché surtout les traits humains du héros de leur BD. Zdeněk Ležák le dit d'ailleurs tout à fait clairement.
Masaryk est plus un symbole qu'un homme. Il est presque déshumanisé. J'exagère un peu, mais quand on parle de lui, il est toujours homme d'État, journaliste, professeur, député du Parlement autrichien. C'est comme un personnage de manuel scolaire. Nous ne voyons pas son côté humain. Ce qui m'intéressait donc, c'était de découvrir un peu l'homme Masaryk. Mais quand vous cherchez à le faire, vous vous rendez compte que l'auréole qui le nimbe est tellement épaisse qu'on a de la peine à l'approcher.
Ta svatozář kolem něj je tak jakoby silná, že těžko se jakoby k tomu člověku dostáváte.
Ce sujet est consacré au président Masaryk à l'occasion du 170e anniversaire de sa naissance. C'était une rediffusion du 1er décembre 2018. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Continuez à nous suivre sur Radio Prague, vous le savez, sur notre site web, le www.radio.cz/fr. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où nous vous apporterons diverses actualisations sur la situation en République tchèque, notamment en lien avec l'épidémie de coronavirus. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Bon vent, ahoy.